penser à la chronique de
Olivier Morel.
Oui, les chroniques de l'Amérique trumpienne ou les chroniques de l'entreprise. La chronique d'aujourd'hui, du 15 mars, va parler de la nouvelle peur rouge.
Les rouges arrivent, oui. Les chars russes dans les rues de Marseille, par exemple.
Oui, ça, c'était dans les élections, municipales.
C'est ça. Oui, c'était aussi dans les années 80, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir.
Oui, aussi, on voyait déjà les chars rouges.
Donc, les bourgeois qui faisaient leur valise.
Il y a une autre période. T'as pas une période aux États-Unis, là, la peur du rouge?
Oui, le macartisme.
Voilà, la nouvelle peur qui arrive, et ça arrive, voilà, McCarthy, le retour.
Ben, pas que. Hein. Là, voilà. C'est plutôt Mussolini d'arriver.
Mais là, aux États-Unis, il y a un peu le macartisme, mais voilà. C'est quoi? C'est commençant par les attaques contre la sphère judiciaire. Sa chronique nous conduit cette semaine sur les campus américains, qui, eux, subissent aussi des attaques issues de l'administration de Donald Trump.
Ben, comme par hasard.
D'ailleurs, entre parenthèses, le ministre de l'Éducation nationale, c'était la champagne de lutte, et qui est en train de démanteler le ministère de l'Éducation nationale.
Oui, enfin, il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, c'est des États, en fait, qui ont la main sur l'éducation, et que, bon, il y a effectivement une partie, je dirais, de l'administration fédérale qui s'occupe de l'éducation, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France.
C'est Jimmy Carter qui a installé ce ministère de l'Éducation pour donner une certaine cohérence dans les programmes scolaires.
Voilà.
Certains thèmes, et notamment des thèmes qui est sociétal.
D'accord.
Mais chaque État, maintenant, peut mettre son éducation à sa vise. Et donc, c'est la liberté de recherche de l'enseignement qui ne sont pas les seuls secteurs de l'université qui sont vidés. C'est ce que propose l'universitaire franco-américain Olivier Morel dans sa chronique hebdomadaire qui sera diffusée aujourd'hui le 15 mars et qui sera rediffusée le mercredi 19 mars de 12h à 13h30. Donc, les chroniques de l'Amérique trumpienne d'Olivier Morel ou les faits et gestes de Donald Ier, roi de l'entreprise. On y passe de suite.
Introduire cette chronique de la fin de la deuxième semaine de mars, on pourrait parler de l'effondrement des ventes des voitures Tesla. Tesla, l'entreprise qui est la propriété de Elon Musk, l'un des conseillers les plus proches de Donald Trump, qu'on ne présente plus. Les ventes de Tesla sont en effet effondrées de 76% dans un pays comme l'Allemagne, mais la valeur de l'entreprise au niveau global s'est effondrée de plus de 48%. C'est-à-dire que les actions boursières de Tesla ont perdu environ la moitié de leur valeur en quelques semaines depuis le 20 janvier. Évidemment, il y a un lien avec le rôle que Elon Musk joue à la tête du gouvernement américain. On pourrait aussi dire que la bourse est en train de s'effondrer. En fait, on assiste à un krach boursier de basse intensité, encore que 10% c'est beaucoup. L'intensité de ce krach boursier est évidemment liée aux déclarations, aux performatifs typiques de Donald Trump autour des droits de douane. Alors on se lève un matin et c'est les droits de douane qui seront imposés le 2 avril et pas le 1er parce que Donald Trump est conscient, il l'avait dit lui-même, du fait qu'il ne veut pas qu'on pense que c'est un poisson d'avril. J'avais fait ma dernière chronique sur la notion de poisson d'avril et qu'est-ce que c'est qu'un poisson d'avril dans l'ère Donald Trump, en ce deuxième mandat de Donald Trump. Eh bien, l'effondrement des valeurs boursières est vraiment un problème pour Donald Trump lui-même qui s'enorgueillit à chaque fois qu'il pouvait le faire au cours de sa première présidence sur les résultats de la bourse sous sa présidence. Les choses ne se passent pas exactement comme il aurait voulu et il a tendance à faire marche arrière et à maintenant dire que l'effondrement de la bourse, après tout, n'est pas une si grave affaire. J'aurais aussi pu introduire cette chronique sur la manière dont le 13 février dernier, donc il y a environ un mois, je n'en avais pas parlé, mais il le faut. Il y a environ un mois, une éminente juriste de 38 ans, qui est en fait procureur général de Manhattan, c'est-à-dire de New York, de la ville de New York City, comme on l'appelle, a démissionné. Elle a démissionné avec fracas après que le département de la justice, c'est-à-dire que le ministère de la justice de Donald Trump, lui est instamment demandé de ne pas instruire, en fait d'abandonner toutes les accusations qui portent sur le maire de New York, Eric Adams. Eric Adams est accusé de corruption, c'est un maire d'ailleurs démocrate qui avait été élu par les démocrates et une enquête pour corruption était en cours contre lui. Or, le département de la justice, le ministre de la justice américain de Donald Trump a demandé instamment à la procureure de retirer les accusations. Ce qu'elle n'a pas fait, elle a refusé de le faire et son refus a entraîné sa démission. Alors, on en parle, pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait de l'autorité judiciaire à la tête du gouvernement américain qui demande à une procureure des États-Unis, de la grande ville des États-Unis qu'est New York, ville très familière de Donald Trump, nous en avions parlé à l'automne dernier puisque Donald Trump est un New-Yorkais et qui connaît les arcanes de la vie politique et de la vie économique de New York. Mais Donald Trump a aussi fait promettre à Eric Adams, le maire de New York, encore une fois élu par les démocrates, que Eric Adams allait lui prêter assistance dans l'opération d'expulsion massive, on dit en français, et non pas déportation en anglais, on dit deportation. En fait, on parle d'expulsion massive de personnes en situation irrégulière, un sujet sur lequel, évidemment, Donald Trump a fait toute sa campagne. Donc, en échange du loyalisme de Eric Adams, Donald Trump lui avait promis que les attaques qui portaient sur son nom, sur Eric Adams, en termes de corruption, serait levée par son ministère de la Justice. Le problème, c'est que la procureure ne l'entendait pas de cette oreille et voulait poursuivre les poursuites judiciaires contre M. Adams. Elle n'a pas été en capacité de le faire et elle a démissionné. Alors, ça serait une affaire suffisamment grave, bien sûr, puisque c'est une intrusion du pouvoir exécutif dans la sphère judiciaire, si on ne devait pas noter également, au passage, et c'est une chose très importante, que Danielle Sassoon, cette procureure, cette éminente juriste, encore une fois, n'est pas spécialement une personne marquée à gauche, puisqu'elle a fait ses armes dans le conseil juridique d'un des juges les plus conservateurs de la Cour suprême. Donc nous parlons bien d'une juge, d'une procureure, d'une juriste qui n'est pas spécialement portée à soutenir les causes du camp de la gauche qui a démissionné. Alors, ça m'amène aussi à rappeler que l'un des enjeux de la présidence actuelle de Donald Trump, c'est aussi de savoir comment la sphère judiciaire va réagir, mais aussi lorsque la sphère du judiciaire prend des décisions qui sont défavorables à Donald Trump et à son administration, ainsi qu'à Elon Musk et ses décisions et ses actions. Il faut considérer que ces décisions de justice doivent être mises en œuvre. Le problème actuellement, c'est celui du suivi de ces décisions de justice par l'administration Trump. Il s'avère qu'il y a un cas, par exemple, qui est la suppression de l'agence d'aide humanitaire des États-Unis, USAID. On en a beaucoup parlé. USAID a été complètement fermée, éteinte, sur recommandation de Elon Musk par la présidence de Trump. Et ça nous ramène à la Cour suprême, puisque la juge Amy Coney Barrett, à la Cour suprême, qui elle-même a été appointée par Donald Trump dans son poste de juge à la Cour suprême lorsque Donald Trump était président pour son premier mandat, Amy Coney Barrett a exprimé un avis défavorable à la suppression de cette agence d'aide humanitaire américaine, ce qui a impliqué que la Cour suprême a considéré comme illégale la procédure d'extinction de cette agence humanitaire fédérale du gouvernement américain. Qu'en est-il ? Eh bien, pas grand-chose. Ce qui est très intéressant dans le contexte, c'est que nous avons là encore, comme la procureure Danielle Sassoon à New York, là il s'agit de la Cour suprême, donc c'est encore un degré au-dessus de la hiérarchie judiciaire. C'est une juge très conservatrice, Amy Coney Barrett, qui a émis un avis qui était défavorable à l'administration de Trump qu'il avait lui-même désigné comme juge. Si vous me suivez, nous sommes en train de parler d'une certaine capacité, ou en tout cas d'une tentative de résistance de la sphère judiciaire au devoir de loyalisme vis-à-vis de Donald Trump qui est exigé par Donald Trump des juges. La question qui se pose maintenant, c'est jusqu'à quel point les décisions de justice vont être respectées par Donald Trump. Et évidemment, on pourrait tout imaginer, puisque ici et là, on entend dire que, bien sûr, il y aura sans doute une alternance au cours des élections de mi-mandat dans 2 ans, au cours desquelles on renouvellera un tiers du Congrès américain. Mais après tout, avec un gouvernement de Donald Trump qui a tendance à faire fi des décisions judiciaires, que pourrait-il se passer si les élections, par exemple, on peut tout imaginer, c'est de la fiction bien sûr, si les élections n'étaient pas organisées en temps et en heure? Il y aurait évidemment une intervention de la sphère judiciaire, probablement de la Cour suprême, mais que se passerait-il? Que se passerait-il si l'administration du gouvernement de Donald Trump ne respectait pas les décisions de la Cour suprême? On verra, on attend. J'aurais pu évidemment introduire ma chronique, et j'ai déjà passé de longues minutes à introduire la chronique ainsi, par ces histoires judiciaires. Évidemment, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de points d'interrogation. Un sujet sur lequel il n'y a pas vraiment de points d'interrogation, puisque ça a été exécuté et fait, c'est la guerre des mots et l'attaque contre la langue qui a lieu actuellement aux États-Unis. À la tête du gouvernement américain, les agences fédérales n'ont pas seulement parfois disparu ou perdu une grande part de leurs effectifs, des effectifs qui, je le rappelle d'ailleurs, comptent souvent dans leur rang des vétérans de l'armée américaine, ce qui touche de très près à l'électorat souvent favorable à Donald Trump. Donc ça provoque ça aussi quelques résistances, et beaucoup de parlementaires américains reçoivent des messages et des appels alarmistes de milliers de citoyens et de citoyennes à travers les États-Unis, y compris de leurs propres supporters, qui sont des supporters de Donald Trump, souvent sur la manière dont les agences fédérales sont attaquées par le gouvernement Trump actuel. Donc là, je voudrais m'intéresser à ce que j'appelle une guerre des mots, puisque au cours des dernières semaines, et on l'a appris en particulier par des articles au tout début du mois de mars, vers le 6, 7 et 8 mars, il y avait un grand nombre de rapports, d'articles, de reportages sur la suppression de toutes sortes de vocabulaire, de mots qui sont considérés comme gauchistes ou wokistes, du mot woke, qui est un vocabulaire qui a émané de la sphère activiste afro-américaine il y a de longues années. Sans revenir sur l'origine de ce mot, en tout cas, c'est afin de lutter contre le wokisme que des mots, alors je vais en prononcer quelques-uns, le mot disparité, le mot diversité, le mot race, les pronoms, les mots pronoms, au singulier et au pluriel, le mot privilège, le mot diversité raciale ou identité raciale ou inégalité raciale ou justice raciale, le mot racisme, le mot ségrégation, le mot stéréotype, le mot systémique, le mot tribal, le mot victime, le mot femme au singulier et au pluriel, le mot pollution, le mot polarisation, le mot golfe du Mexique, le mot genre, bien sûr, le mot diversité culturelle, héritage culturel, le mot non-binaire, le mot multiculturel, le mot féminisme, le mot black, le mot bias, biais, le mot barrière, le mot antiraciste, et j'en passe, le mot activiste, bien sûr. Tous ces mots ont été bannis de milliers de pages des documents de l'administration fédérale américaine. Ce sont aussi des mots qui, dans ce nuage sémantique que je viens de brosser assez rapidement, ce sont aussi des mots qui impliquent une nouvelle police du langage à la tête du gouvernement américain. Et ceci a des conséquences. Il y a quelques jours même, ça nous ramène en fait très très proche de Marseille, il y a quelques jours, l'université d'Aix-Marseille, c'était vers le 5 mars 2025, donc il y a une dizaine de jours environ, l'université d'Aix-Marseille a lancé un appel aux chercheurs américains, se disant, je cite, « prêts à accueillir ceux qui travaillent sur des sujets comme le climat et dont la liberté académique pourrait être menacée par la politique menée par Donald Trump ». Oui, l'université d'Aix-Marseille, qui fait évidemment un coup médiatique sur ceci, annonce qu'elle veut dépenser 10 à 15 millions de dollars pour attirer des chercheurs américains qui sont, et je vais prononcer le mot, qui sont en proie à des risques de censure, des menaces ou des entraves dans leurs recherches. Ceci fait l'objet de nombreux articles, et par exemple dans le journal Le Monde, il y a quelques heures, qui évoque les conditions dans lesquelles certains chercheurs, une chercheuse notamment est mentionnée, sont déjà séduits par le programme. Et c'est une chercheuse qui est citée dans le journal Le Monde il y a quelques heures et qui est particulièrement spécialisée dans la transition climatique et les risques sanitaires. Alors le grand mot est lâché, le mot de censure. On parle de chercheurs censurés dans le vocabulaire utilisé par l'université d'Aix-en-Provence, qui essaye en fait de profiter aussi de cette situation dans laquelle de nombreux chercheurs très avancés pourraient être intéressants pour l'Europe et pour la France et peut-être même pour la région d'Aix-en-Provence. Nous sommes dans une situation où, j'évoquais tout à l'heure la guerre des mots, où c'est un climat de censure et du contrôle du langage, du contrôle de l'expression qui n'a pas de précédent dans l'histoire américaine depuis au moins ce qu'on a appelé la peur rouge, the Red Scare. Qu'est-ce que c'est the Red Scare? The Red Scare, certains s'en souviennent peut-être, c'est le contexte dans lequel, dans les années 40 et 50, il y a eu cette panique à la tête des États-Unis vis-à-vis de la montée en puissance de l'Union soviétique et puis ensuite du contexte de la guerre froide. J'avais rappelé en automne qu'un des mentors de Donald Trump était un avocat qui s'appelait Roy Cohn, qui est mort à la fin des années 80, du sida d'ailleurs, un avocat new-yorkais qui avait enseigné à Trump les grands principes de la philosophie que Trump a appliquée pendant toute sa carrière. Par exemple, attaquer, attaquer, attaquer. Et après avoir attaqué, ne jamais reconnaître ses défaites ou ses erreurs. Attaquer ses adversaires en utilisant les termes et les mots qu'ils utilisent contre vous, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le playbook de Donald Trump, c'est-à-dire le petit fascicule, le petit manuel de comportement de Donald Trump que Donald Trump a utilisé pendant toute sa vie. J'évoque ce cas de l'avocat Roy Cohn, puisque Roy Cohn, je l'avais signalé en automne, Roy Cohn avait été un des avocats, un des jeunes loups, un des jeunes avocats proéminents des procès intentés par le sénateur Joseph McCarthy dans ce qu'on connaît sous le nom du McCarthyisme. Alors le McCarthyisme, c'était cette chasse aux personnes communistes ou supposées telles dans cette grande phase d'anxiété culturelle et d'anxiété politique, certains l'appellent de paranoïa, d'anxiété culturelle, d'anxiété politique qui avait prévalu durant la guerre froide aux États-Unis, où des gens, parfois de simples conditions, étaient accusés d'être abonnés à certaines revues suspectées d'accointance communiste et avaient perdu leurs emplois dans ce contexte, par exemple. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Eh bien on parle de ça dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir d'un certain contrôle et même d'une répression du vocabulaire, d'un certain contrôle et d'une répression de certains thèmes de recherche, comme par exemple le climat, cette chercheuse américaine qui d'ailleurs ne dévoile pas son nom et son identité, on parle bien de peur là, hein, dans les colonnes du Monde et qui est très séduite par les offres d'emploi que lui font l'université d'Aix-en-Provence, cette chercheuse explique comment dans ses demandes de fonds, elle évitait, sous la première administration Trump, de prononcer le mot « climate change », c'est-à-dire le changement climatique, parce qu'elle savait que la simple apparition de ce vocabulaire durant la première administration Trump pouvait lui valoir la perte des subventions fédérales. La perte des subventions fédérales, c'est un des premiers signes de ce que j'appelle la guerre des mots, mais qui maintenant prend la forme aussi d'une guerre contre l'université, contre les universités, mais aussi contre l'université en général. L'université de Johns Hopkins, par exemple, a perdu depuis le 20 janvier 800 millions de dollars d'aide fédérale. L'université, par exemple, de Haskell, qui est une petite université dévouée aux étudiants qui sont Native American, donc ce sont les étudiants qui sont issus des tribus amérindiennes des États-Unis. Il y a de nombreuses universités comme celle-ci qui accueillent des étudiants de toutes les nationalités des tribus amérindiennes qui composent les États-Unis. Eh bien, une de ces universités a perdu 25% de son personnel en ayant perdu ses subventions fédérales. Au total, ce sont actuellement, pour autant qu'on puisse
puisse calculer, en l'état actuel des calculs, ce sont 60 universités parmi les plus prestigieuses comme Johns Hopkins ou parmi les plus petites du territoire américain mais qui dépendent des subventions fédérales comme les universités amérindiennes des États-Unis. Ce sont 60 universités qui sont en train de perdre leur financement et de perdre des financements à des échelles massives qui vont impliquer, qui impliquent déjà des licenciements de personnel, des non-renouvellements de personnes qui sont contractuelles et bien sûr les gels des embauches. Je vais m'arrêter sur une de ces universités maintenant. L'une de ces universités qui est Columbia University, l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis qui, sur son seul nom, totalise de très nombreux prix Nobel, par exemple. L'université de Columbia a perdu 400 millions de dollars et on l'a appris il y a quelques heures, en ce 14 mars 2025, on a appris que l'université de Columbia avait deux départements, alors je dois les citer parce que c'est aussi l'importance de l'attaque contre l'université est aussi signalée par le nom et les champs d'études de ces départements. Il y a un département d'études d'Asie du Sud-Est et un département d'études africaines qui ont en vérité en fait été placés, c'est exceptionnel et c'est une procédure punitive très grave, qui ont été en fait placés sous tutelle. Donc, ces deux départements font l'objet d'une mise sous tutelle par un employé président de département imposé de l'extérieur par un doyen lorsque le département est jugé incapable de se gouverner de façon efficace. Alors, pourquoi ? Pourquoi on en est là ? Pourquoi l'Université de Columbia ? Pourquoi l'Université de Columbia perd 400 millions de dollars d'aide fédérale, ce qui implique l'annulation de programmes de recherche, d'embauche, d'études doctorales et pourquoi la mise sous tutelle de deux départements ? Eh bien, c'est lié à ce que la journaliste Michelle Goldberg, dans les colonnes du New York Times il y a quelques heures, c'est lié à ce que Michelle Goldberg appelle une nouvelle peur rouge, The New Red Scare. Que s'est-il passé il y a quelques heures aux États-Unis ? Eh bien, un étudiant en études doctorales qui s'appelle Mahmoud Khalil, qui a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Mahmoud Khalil, qui a une carte verte, donc un permis de résidence permanente aux États-Unis ainsi qu'un permis de résidence et en tant qu'étudiant. Mahmoud Khalil est marié à une Américaine, donc il a une famille américaine. Il a été arrêté. Il a été arrêté il y a quelques heures. Sa carte verte, donc son permis de résidence permanente aux États-Unis, a été révoqué et il serait actuellement détenu en Louisiane. Ce qui est très intriguant dans le cas de Mahmoud Khalil, comme le rappelle Michel Goldberg dans son article, c'est qu'il n'y a pas de charge ou d'accusation très claire contre lui. Il est accusé d'avoir participé à des manifestations violentes et pro-terroristes. Comme le rappelle encore Michel Goldberg, d'après une organisation qui traque les activités antisionistes, donc une organisation de droite qui traque les activités antisionistes, Mahmoud Khalil n'apparaît pas sur la liste des gens qui ont prononcé des discours favorables au terrorisme. Il y a d'autres indications qui permettent de dire que M. Khalil n'a pas prononcé de discours violents ou menaçants, puisque son inscription qui avait été suspendue par l'Université de Columbia parce qu'il avait participé à des manifestations pro-palestiniennes au mois d'avril à Columbia, son inscription avait d'abord, dans un premier temps, été suspendue et puis il avait été rétabli après enquête par manque de preuves. Apparemment, pour ce qu'on sait actuellement, les reproches qui sont faits à Mahmoud Khalil sont d'avoir appelé au désinvestissement de l'Université de Columbia en Israël. Ce qui est significatif dans son cas, c'est que Donald Trump a écrit une entrée, un post dans son réseau social il y a quelques jours, quelques heures, lorsque l'arrestation de Mahmoud Khalil a été connue. Et Donald Trump s'est réjoui de cette arrestation et a annoncé que c'était la première d'une longue série, ce qui pourrait être considéré comme une forme d'intimidation. C'est l'idée que pour avoir exprimé son avis politique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec son point de vue, M. Khalil est aujourd'hui en détention. Je vais citer Michel Goldberg. Si quelqu'un légalement résident aux États-Unis peut être arrêté à son domicile pour avoir participé à une activité protégée par la Constitution des États-Unis, nous vivons dans un pays radicalement différent de celui d'avant, le 20 janvier 2025. C'est ainsi que je termine cette chronique avec l'incertitude, bien sûr, que dans cette nouvelle phase de contrôle et d'intimidation des chercheurs, mais aussi de l'expression politique, nous entrons, comme le dit Michel Goldberg, dans un pays qui n'est plus tout à fait celui d'avant le 20 janvier 2025.
California.